Radio Okapi.
Le journal La Grande Édition dominicale vespérale de nos informations avec Billy Ivan Lutumba.
Ils sont au total à ce jour de 104 les détenus de la prison centrale de Matadi qui sont dénombrés comme s'étant évadés hier samedi. En ouverture de ce journal, nous revenons sur l'état des lieux actuels qu'établissent les autorités de la ville et de cette maison carcérale. Éveiller la conscience des jeunes à se mobiliser pour la recherche de la paix dans la région à travers des actions pacifiques, le diocèse de Boutembo-Béni a mis à profit la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse catholique pour une sensibilisation des jeunes du Nord Kivu. Notre invité est Léon Tososui, directeur de la province éducationnelle Kasaï Central 1. En fin de cette édition, il s'entretient avec François Kadima sur les contre-performances des élèves aux épreuves de l'examen d'État. Continuez à nous faire confiance en vous informant sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Le bilan de l'évasion d'hier à la prison centrale de Matadi, ex-Kamolai, est revu à la hausse. Après un état des lieux, la directrice adjointe de ce centre pénitentiaire avance le nombre de 204 détenus qui se sont effacés de la prison. Elle indique que nombreux sont des criminels de grand chemin. Le maire de la ville de Matadi, Patin Zunzi, pour sa part, appelle la population à ne pas céder à la peur. Selon lui, l'accalmie qui s'observe depuis l'arrestation de tous ces malfrats va demeurer grâce à la patrouille qu'effectuent les policiers militaires depuis près de 2 mois. Le point avec Nana Plus Riche Mambou.
Après avoir fait un état des lieux, la directrice adjointe de la prison centrale de Matadi, Apollonia Longo, révèle qu'il ne s'agit plus de 180 détenus, mais plutôt de 204 qui se sont évadés hier, suite à l'intrusion de 2 hommes armés en tenue civile dans les parloirs de ces centres de rééducation. Ces évadés sont majoritairement ceux qui sémaient la terreur et la désolation en milieu de la population de la ville de Matadi, a-t-elle renchéri. Le maire de la ville de Matadi indique quant à lui que tout est sous contrôle. Hormis la patrouille de police militaire qu'il a instaurée, d'autres stratégies sont en cours d'élaboration pour traquer tous ces inciviques. Patinzouzi Wamakengedi.
Les stratégies que nous avons mises en place il y a 2 mois, aujourd'hui vous avez vu les résultats. Donc maintenant que nous avons eu encore ce cas où plus de 200 personnes ont échappé, nous avons toujours notre stratégie en place, mais nous allons encore renforcer d'autres stratégies de façon de récupérer tous ceux-là qui sont dehors, qui sont encore sur place ou en dehors de la ville. La population peut vaquer calmement à ses occupations et de toujours dénoncer lorsqu'ils voient un criminel reconnu qui a évadé de la prison.
Il s'est de signaler qu'en dehors des 6 évadés qui ont été appréhendés hier dans les encablures de la prison, 2 autres viennent d'être arrêtés à Kimpese. Ils sont en train d'être acheminés vers Matadi. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Nord Kivu, un éco-garde de l'ICCN tué la nuit dernière dans une attaque armée à Bukinma, située à 50 kilomètres au sud-est du chef-lieu du territoire des Rutshuru. C'est dans le secteur Mikeno, en plein parc national des Virunga. Les assaillants sont identifiés par l'armée comme des présumés ex-rebelles du M23 qui seraient retranchés vers les collines de Gahinga. Cette attaque intervient après celle de Tianzhou le 8 novembre courant, attribuée à ces mêmes rebelles, comme le dit Denise Lukeso.
Des sources militaires à Rutshuru affirment que cette attaque s'est déroulée de 20h jusqu'à minuit ce dimanche. L'ennemi est identifié par l'armée comme étant des ex-combattants du M23 qui seraient présents dans cette zone. Il serait venu de la colline de Mikeno, précisément des Gahinga, où il se serait retranché avec comme objectif d'attaquer, précise la même source. Bilan de cette attaque, un éco-garde de l'ICCN est tué, 2 autres disparus, des biens et d'autres matériels portée. Cette source ajoute que les assaillants seraient de toute évidence venus pour se ravitailler avant de se replier, avant l'intervention des FARDC. L'ICCN confirme l'attaque et le bilan des morts. Cette institution promet de donner d'autres détails sur les circonstances et l'identité des assaillants incessamment. Pendant ce temps, l'armée affirme mobiliser les troupes pour poursuivre l'ennemi qui est en fuite dans les profondeurs du parc. Notons qu'il y a 2 semaines environ, les villages de Tianzhou et Runyoni, en territoire de Rutshuru toujours, ont été attaqués par des hommes armés que les autorités provinciales militaires ont identifiés comme les rebelles du M23. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
À Ituri, 6 personnes ont été lâchement abattues ce dimanche par les assaillants de la Côte d'Eco dans les localités Mba et Djaïbou en territoire des Djougou. Des sources sécuritaires indiquent que ces rebelles pourchassaient les éléments de la milice d'autodéfense Zaïre qui seraient accusés par Codeco de maltraiter la population locale. L'armée est intervenue pour rétablir la quiétude. Le point avec Martial Kiza.
Un groupe d'assaillants de IRDPC, Barkodeko, venu des villages de Djiba et Zina, a attaqué ce dimanche matin les localités d'Emba et Djaibou dans les groupements Djaiba en territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, ces éléments de la Codeco avaient comme objectif de pourchasser les miliciens du groupe d'autodéfense de Zaïre signalés dans ces localités où ils seraient en train de tracasser la population locale. Vers 9h local, 6 corps de civils gisaient encore sur le sol Emba et Djaibou, nous a déclaré les secrétaires des jeunes patriotes pour la paix, une ONG locale basée à Boulé. Charles Panza Mbitso.
Ils ont attaqué d'abord le pâturage où il y a les bêtes. De là, ils sont passés en bas. Ils ont tué 4 personnes et 3 autres personnes à Djaïb, parmi lesquelles un chef du village du côté de Lunga, une vieille maman avec un petit enfant.
Les porte-parole de l'armée à Ituri indiquent que les FRDC basés à Boulé et Largou sont intervenus pour rétablir l'ordre. Les lieutenants Gilles Ngongo.
La terre de l'Ituri ne doit pas constituer un terrain des affrontements entre ces peuples. Et l'armée doit imposer la paix et tous ceux qui détiennent les armes seront traités de la même manière.
Ces combats ont occasionné un mouvement de la population vers les centres de Boulé. Bounia, Martial, Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Actualité liée toujours à la sécurité. Une tension a régné la nuit dernière dans la commune rurale de Kiondo dans le territoire de Beni. Des sources locales rapportent que certains habitants ont réagi négativement à la vue des casques bleus de la MONUSCO dans cette zone, les accusant d'être des mèches avec les groupes armés. Ils ont érigé des barricades et allumé des brasiers géants à plusieurs endroits de la ville, empêchant les soldats de la paix de travailler alors qu'ils répondaient à une alerte sur une possible attaque d'un groupe armé dans la zone. Suivez les explications de Grace Hamzati.
Des sources concordantes dans la zone indiquent que c'était autour de 22 heures qu'une équipe de casques bleus de la MONUSCO a été vue à Kiondo. Certains jeunes habitants de la commune ont alors réagi, empêchant aux soldats de la paix de circuler. Ils ont érigé des barricades et allumé le feu sur les points chauds de la commune, ce qui a créé une certaine tension jusqu'au matin. À en croire plusieurs sources, les manifestants soupçonnaient les casques bleus d'être des connivences avec les groupes armés qui, depuis plusieurs semaines, multiplient les menaces sécuritaires dans la zone. Le chef des bureaux intérimaires de la MONUSCO dans la région de Beni Boutembo Lubero, nous avons joint au téléphone, explique que les casques bleus en provenance de Boutembo étaient en patrouille en accord avec les FARDC après avoir reçu plusieurs alertes et des menaces des groupes armés d'attaquer la zone. Abdourahmane Ganda appelle la population à ne pas céder aux rumeurs et à faire confiance à la MONUSCO qui travaille avec les autorités congolaises afin de rétablir la paix.
La même population qui nous demande de venir la protéger, nous envoyons les hommes pour la protéger. Aujourd'hui, on leur empêche de travailler sereinement. La MONUSCO, c'est une force de la paix. La MONUSCO n'a jamais travailler avec les forces négatives et elle ne le fera jamais. N'écoutez pas ce qui se raconte dans les réseaux sociaux.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du bourgmestre de Kiondo à ce sujet n'ont pas abouti. Boutembo, Grâce à Mzati, Radio Kapi.
Le Parti congolais pour le progrès pense que l'état de siège devrait être accompagné de la mise à niveau et de l'évaluation pour qu'il soit efficace. Déclaration hier samedi à Kinshasa du président national de ce parti, membre de l'Union sacrée, à l'issue de sa session extraordinaire de mise à niveau idéologique de ses nouveaux membres cooptés dans le directoire national. Aimé Jules Mouroula Manigabé appelle les jeunes à se mobiliser, à se démobiliser plutôt des groupes armés et aux acteurs politiques de cesser de manipuler les groupes armés. Ces propos ont été recueillis par Richard Junior Kamunga.
Il faut dire que le congolisme, qui est notre idéologie, nous exige de porter le Congo et les Congolais. C'est dans ce cadre que l'état de siège mérite notre accompagnement. Nous devons appeler tous les autres acteurs politiques, y compris la population, à accompagner ce processus. Ça signifie aux jeunes de se démobiliser des groupes armés, aux acteurs politiques de cesser de manipuler les groupes armés, mais aussi c'est une opportunité de faire un plaidoyer auprès de son Excellence le Président de la République, de manière à ce que les équipes de troupes sur le terrain soient contrôlées de la bonne manière. Ceux qui rentrent dans les activités illégales devraient être punis de la manière la plus exemplaire. Les troupes doivent être remplacées régulièrement pour qu'il n'y ait pas de chefs coutumiers dans les zones minières surtout. Ceux qui doivent bénéficier de la solde le soient concrètement. Et donc, assainir les secteurs de telle manière que les prestations de nos troupes sur le terrain soient profitables à la population. Et donc, les PCP pensent que non seulement ça a été une bonne mesure, mais la mise à niveau, l'accompagnement, l'évaluation devraient accompagner aussi ces processus pour qu'ils soient les plus efficients.
Attitude des jeunes face au massacre récurrent des civils au Nord Kivu, c'est le thème qui a été débattu ce dimanche par de nombreux jeunes du diocèse de Butembo-Beni. C'était lors d'une conférence organisée par les jeunes de ce diocèse en marge de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse catholique. Pour le professeur Kaindo Mouessi qui a exposé sur cette thématique, l'objectif est d'éveiller la conscience des jeunes à se mobiliser pour la recherche de la paix dans la région à travers des actions pacifiques. Grâce à Mzati.
Le professeur Kaindo Mouessi a appelé les jeunes à s'organiser en comité de vigilance ou d'autodéfense. Cela ne signifie pas détenir les armes ou s'opposer aux forces de défense et de sécurité, mais plutôt se désolidariser tout d'abord des groupes armés tout en menant des actions dignes et pacifiques. Pour ces politologues, il s'agit ici de jouer notamment le rôle de prévenir les menaces sécuritaires en donnant des alertes aux autorités et sensibiliser la communauté à s'engager pour la paix.
L'affaire de la sécurité concerne autant les jeunes que les autres couches de la population et le jeune contenu de leurs atouts, de ce qu'ils ont comme force, de ce qu'ils ont comme capacité, peuvent effectivement jouer un rôle dans la transformation de cette situation qui irait de la situation de non-paix à la situation de plus en plus apaisée. Il s'agit d'une interpellation, mais une interpellation soutenue par des propositions concrètes par lesquelles les jeunes peuvent passer en vue de pouvoir participer à la reconstruction de la paix dans notre région.
Bienvenue Kamate, l'un des participants trouve pertinent ce thème et lance ses messages aux jeunes.
De ce massacre-là ne reviendra pas de très loin. Nous, les jeunes, nous devons nous prendre en charge, c'est-à-dire nous devons connaître l'ennemi. Chacun doit connaître son voisin, mais sinon nous devons suivre la voie qui est pacifique pour combattre l'ennemi.
Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Au Katanga, célébration de la Journée internationale de l'enfance, le bureau de l'UNICEF Lubumbashi a organisé plusieurs manifestations. Toutes ont mis en avant-plan les droits des enfants. Ces derniers ont fait des plaidoyers touchant entre autres à la préservation de l'environnement, comme nous le dit Jean Gando.
Ces enfants ont fait des plaidoyers aux différentes autorités de la province. Par exemple, au ministre provincial de Mines, ils ont sollicité son implication pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment dans les carrières minières, où ils sont exposés à de maladies. Ce travail dans les mines favorise la déperdition scolaire, ont-ils affirmé. À son collègue du genre famille et enfants, ils ont épinglé le mariage précoce et l'exploitation sexuelle qui a pour conséquence la présence de nombreuses filles mères. Cette situation compromet leur avenir. À la commissaire en charge des affaires sociales, ils ont plaidé pour que tous les enfants qui traînent dans la rue soient aussi bien encadrés afin de leur garantir un avenir radieux et plein d'espérance, car à longueur de journée, tout le monde le voit prenant de la drogue et s'adonnant à des pratiques peu recommandables. Au ministre de la Santé, ils ont indiqué qu'ils sont exposés à la COVID-19, notamment dans les milieux scolaires, où il est remarqué un relâchement dans l'observation des mesures barrières. Par rapport au thème de la journée, ils ont interpellé toute la société, eux y compris, à s'engager pour préserver l'environnement et lutter contre le dérèglement climatique par l'assainissement du milieu. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans le Kasaï oriental, les filles mères et celles désœuvrées vont désormais bénéficier d'une formation gratuite en coupe et couture grâce à l'ONG Femmes Leaders et Vision Politique. Ce centre de formation a été inauguré hier samedi par la ministre nationale du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya Luseba, à mission officielle en Mbujimayi. Un geste apprécié par plusieurs femmes, comme le dit Esther Dalafina.
Ce nouveau centre de formation en coupe et couture installé dans la commune de Bipemba va offrir une formation gratuite aux filles mères et filles désœuvrées. D'après la coordonnatrice provinciale de l'ONG Femmes Leaders et Vision Politique, l'ouverture de ce centre est une réponse à l'autonomisation économique des bénéficiaires. Grâce Moussouamba, une des bénéficiaires, s'est dit contente d'apprendre la couture.
Je ne savais pas comment coudre, mais à partir de son œuvre, je vais quand même apprendre à coudre. Quand je vais coudre, on pourra me donner aussi l'argent.
Thérèse Palaba est une femme ménagère qui salue l'initiative. Combattre l'oisiveté et permettre à ceux qui ne connaissent pas le petit métier d'apprendre et d'avoir du travail. Le ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, initiatrice du projet, demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage.
Aux jeunes du Kasaï oriental, j'invite chacune d'entre vous à entretenir ce centre à l'apprentissage, au travail et à la créativité, car le développement de ce pays...
Après l'étape d'apprentissage de 3 mois, un kit de réinsertion sera remis aux bénéficiaires de la formation. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En visite à Dakar samedi, le secrétaire d'État américain a promis l'appui financier de son pays au Sénégal. Anthony Blinken et le chef et le ministre sénégalais de l'économie ont signé des accords pour plus d'un milliard de dollars. Un financement présenté comme une prime à la démocratie. Le Sénégal étant réputé pour sa stabilité, Dakar n'a pas caché son intérêt à travailler avec Washington. Le chef de la diplomatie américaine bouclait à Dakar sa demi-tournée en Afrique. Outre le Sénégal, Anthony Blinken a visité le Kenya et le Nigeria. Décédé le 11 novembre, à 85 ans, Frédéric de Klerk repose désormais dans sa dernière demeure. Les funérailles du dernier président du régime d'apartheid en Afrique du Sud ont eu lieu ce dimanche. Son corps a été incinéré au cours d'une cérémonie privée, conformément aux souhaits de sa famille loin des médias, alors que le gouvernement sud-africain avait décrété 4 jours de deuil national en guise d'hommage à l'ex-président. Pourtant, les anciens chefs d'État et ceux en exercice dans le pays ont droit à des obsèques nationales.
L'invité.
Le directeur de la province éducationnelle Kassai Central a un autre invité. Léon Tososué déplore la baisse des performances des élèves aux épreuves de l'examen d'État après la publication des résultats. Il l'a dit à la suite de l'évaluation des activités scolaires dans sa juridiction. Léon Tososué s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Léon Tososué, bonjour.
Bonjour François.
La province éducationnelle, sous votre direction, toutes les équipes, vous êtes réunies pour faire une évaluation après la rentrée de classe. Qu'est-ce qui a été relevé?
Nous avons voulu voir comment la situation évolue dans notre province éducationnelle. On s'est rendu compte que les cours se déroulent normalement sur toute l'étendue de la province éducationnelle. Et pour cela, nous avons jeté de fleurs à nos vaillants enseignants de Kassai Central, qui, malgré le fait que dans d'autres provinces, les enseignants sont allés en grève, les nôtres ont jugé bon de continuer à prester tout en restant attentif aux recommandations, aux résolutions qui sortiront des négociations entre le gouvernement et le bac syndical. En dehors de ça, nous avons passé en revue les résultats de l'examen d'État édition 2021. Nous avons évalué les résultats et ensemble nous avons constaté que nous avons connu une baisse de performance. Les résultats de 2020 ont été meilleurs par rapport à 2021.
Alors pourquoi il y a eu cette baisse?
Nous sommes rendus compte que dans ce qui s'est passé, les parents ont les responsabilités, les élèves eux-mêmes aussi, et surtout les chefs d'établissement n'ont pas rendu un bon service aux enfants. Dans quel sens? Il y a des chefs d'établissement qui ont, depuis le début de l'année, appris aux enfants qu'il faut payer 30 000 qui 60 000 pour préparer l'accueil de l'inspecteur qui sera chef de centre de passation. En termes de corruption, les enfants ont crié à ça et ils ont donné l'argent, bien que nous avions dénoncé cette situation depuis le début de l'année. Pire encore, les chefs d'établissement qui savaient bien les montants qui étaient fixés par l'arrêté du gouverneur, que ce soit pour les fiches, que ce soit pour les épreuves hors session et la session ordinaire, ils se sont amusés à demander aux enfants les frais pour les E13. Les E13, ce n'est pas une marchandise. Les E13, c'est une fiche que l'inspection a conçue pour transcrire les points scolaires, les points que les enfants ont gagnés, ont obtenus pendant les périodes et pendant les examens de premier semestre et deuxième semestre. Ce sont ces points-là qu'on porte sur la fiche E13. Ce n'est pas à vendre, ce n'est pas à acheter non plus. Ce sont des points que les enfants obtiennent pendant l'année scolaire. Pire encore, ils ont demandé aux enfants l'argent pour la caisse noire. C'est de l'argent qu'ils ont demandé aux enfants pour organiser les laboratoires. Ce travail-là que les chefs d'établissement ont fait, ont mis les enfants dans une situation de loi de moindre effort. Ils n'ont plus fourni aucun effort. Ils ont attendu tout comme du pain dans un plateau dans les salles d'examen d'État. Malheureusement pour eux, pendant l'examen d'État, les surveillants, les superviseurs, les chefs de centre ont été coriaces. Ils ont maîtrisé les élèves et ils ont récupéré tous les téléphones, si pas tout, mais au moins un grand nombre, parce que nous avons transmis à l'ANER plus de 320 téléphones ravis auprès des candidats dans les salles d'examen d'État.
Directeur de la promesse éducationnelle, qu'est-ce que vous avez envisagé pour améliorer cette situation?
C'est pour cela que nous lançons la sonnette d'alarme pour dire aux parents que faites attention, cette expérience de l'année passée, qu'elle ne revienne plus. Parce qu'au Centre national de correction, on est en train de comparer les points scolaires avec les points de l'examen d'État. Lorsqu'on trouve que les points scolaires ont été inutilement gonflés, on les déconsidère. On va seulement considérer les points de l'examen d'État. Il ne faut pas que les enfants se livrent encore à cet exercice, que les chefs d'établissement ne s'amusent plus. Ceux qui ont fait néant cette année ici, même si vous avez 3-4 options, dans une option vous avez fait néant, retenez bien que si vous faites encore néant cette année, on va vous écarter de votre poste de chef d'établissement pour mauvais rendement. On va vous remplacer, monsieur le chef d'établissement. Et vous voyez même les conséquences dans certaines écoles. Il y a des candidats malheureux qui viennent s'attaquer au chef d'établissement. Ils viennent s'attaquer même aux infrastructures scolaires. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que les chefs d'établissement les ont dupés. Nous sommes en train de sensibiliser les parents. Nous sensibilisons les enfants. Nous sensibilisons les chefs d'établissement qu'on ne se livre plus à cette pratique-là.
Monsieur Lonto, ceci, nous vous disons merci.
C'est nous qui vous remercions, François.
À vos auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition du journal sur Radio Okapi.